Le travail est en train de devenir un véritable problème en France. Des prises de conscience.
Alors, encore souffrance au travail, j'allais dire, puisque hier, nous avions une interview de lundi qui était consacrée à l'éthique au travail, on peut dire ça, les souffrances éthiques au travail. Et nous avions eu le plaisir d'avoir Mireille Schaffhauser qui nous en avait parlé. Et là, on passe à la deuxième interview de cette association que nous recevons régulièrement avec Julie. Julie, alors toujours votre nom, j'ai toujours peur de l'écorcher, c'est Rudnicki.
Oui, de Rudnicki.
De Rudnicki, hein. Mmh. Voilà. Alors vous avez le côté un peu juridique de cette association puisque vous êtes avocate.
Oui.
Alors, en deux mots, votre rôle dans cette association, pour ceux qui... On vous a déjà interviewé, hein, mais pour ceux qui n'avaient pas écouté les premières interviews, donc dans l'association, qu'est-ce que vous faites?
Alors, je suis avocate en droit du travail, en droit social de manière générale, et j'interviens dans le cadre de l'association aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire pour permettre aux personnes qui sont en souffrance d'aborder leurs problèmes sur tous les axes possibles. Le médical, évidemment, le psychologique, quand ils ont besoin de soutien, et... Également, le juridique, parce que la plupart du temps, ils sont dans une situation insoluble, il faut qu'on les sorte de là.
Ils sont perdus un peu.
Voilà,
hein.
ils sont perdus. Et surtout, ils ne peuvent pas être maintenus dans le lien au travail tel qu'il est, quand ils sont à ce degré de souffrance. Mmh. Donc nous, on intervient pour leur donner des conseils pour sortir de cette situation inextricable.
Voilà.
Et puis ensuite, pour soit négocier une sortie, soit les accompagner dans le cadre d'un contentieux.
S'il faut aller jusqu'au contentieux, vous êtes là pour les aider juridiquement parlant. Mais j'ai bien compris qu'avec l'association Souffrance au Travail, c'est toujours un travail d'équipe.
Tout à fait.
Alors comme on le disait donc avec le médecin du travail que nous avons reçu, dans cette société quand même, c'est de plus en plus difficile de travailler en équipe. Donc heureusement, il y a des associations où on travaille en équipe.
Mais je crois que c'est la plus-value de notre association. Mmh. Ça nous permet d'aborder le problème dans une globalité.
Des strates.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Mmh. On est à la fois, c'est pas que une dépression nerveuse, par exemple. Ce n'est pas que un problème juridique parce que un employeur vous a. C'est pas que ça.
Tout à fait. Concrètement, si on traite le problème que sous l'angle juridique, sans traiter le mal-être de la personne, il ne se reconstruira pas, il ne retravaillera pas sereinement derrière. Donc, il faut vraiment aborder le problème dans son ensemble.
Dans son ensemble. Mais écoutez, je trouve que c'est un travail extrêmement important que vous faites, et je conseille toujours aux auditeurs d'aller se renseigner au-delà, et puis, je ne leur souhaite pas, mais si jamais ils ont des problèmes, de vous contacter, en dehors des contacts habituels, qui peuvent être dans l'entreprise, bien sûr, les syndicats, mais vous avez aussi des syndicats qui viennent avec vous. Hein. Donc, ils ont une vision globale du problème, on pourrait dire ça. Je vous rends la parole pour nous reparler de ce que vous voulez nous dire.
Oui, aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de l'inaptitude au travail, qui est souvent un terme mal connu.
Oui,
mal
on connu dit inapte.
Oui, alors je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut lever cette idée reçue que l'inaptitude, la plupart des gens croient que lorsqu'ils sont inaptes, ils ne pourront plus travailler.
Que c'est fini.
C'est fini pour eux. Et du coup, ils freinent, ils veulent tout, ils veulent vraiment l'empêcher.
Surtout pas être inapte.
Quand ils vont le médecin de travail, ils disent non, surtout pas. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment idée de ce que c'est. La première chose à dire, c'est que c'est totalement différent de l'invalidité. L'inaptitude ne concerne qu'une relation de travail précise.
D'accord, donc, c'est pas général.
Non.
Vous êtes pas, vous rentrez pas dans la case handicapé.
Tout à fait. On peut être inapte à travailler dans une société, dans une entreprise donnée, mais retravailler ensuite derrière dans n'importe quelle autre entreprise.
Changer de métier, par exemple,
tout
ça peut arriver
fait.
Parce que vous êtes plus capable de faire ce métier-là pour des raisons physiques ou morales.
Morale. Alors nous, on traite dans le cadre de l'association la souffrance morale. Vous l'avez compris. Mmh. On ne s'occupe pas de la souffrance physique, mais on a deux types d'inaptitude. L'inaptitude qui est consécutive à un handicap physique, où là, effectivement, on pourra aménager le poste s'il faut partir vers une reconversion. Puis on a la souffrance morale. Alors, la particularité de la souffrance morale, c'est que lorsqu'on atteint un stade trop important, qui peut aller jusqu'à un burn-out ou une dépression réactionnelle à une situation de harcèlement moral, la personne ne peut plus remettre les pieds dans l'entreprise. Parce qu'à chaque fois qu'elle remettra les pieds dans une entreprise qui n'a pas changé son environnement de travail, ça va réactionner son syndrome.
Le processus se remet en place et est à nouveau en souffrance.
Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne sort pas de cette situation-là. Alors, souvent, du coup, l'inaptitude est la solution. Et la solution, parce que ça permet de rompre le lien symbolique avec l'entreprise qui est... Les personnes ne sont pas malades, ça, il faut le rappeler. Elles ne sont pas malades, c'est l'environnement de travail ou une personne donnée dans l'environnement de travail
qui est incompatible avec eux.
Qui a créé
l'incompatibilité.
Voilà, qui a créé une souffrance médicale et physique. Mmh. Et donc, on débouche sur une inaptitude, on débouche sur une rupture, un licenciement pour inaptitude. Donc le contrat est rompu suite à cet événement.
De façon conventionnelle, comme on dit, ou non, ou ça dépend quoi.
Non, c'est un licenciement. C'est-à-dire qu'on passe par la case médecin du travail. D'accord. Qui va, après plusieurs examens et plusieurs étapes, déclarer l'inaptitude. Et ensuite, le salarié sera la plupart du temps licencié pour inaptitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec toutes les réformes, les dernières réformes sur la loi travail, les ordonnances Macron, on en a longuement discuté.
Vous avez du boulot, hein, j'ai remarqué.
Oui.
Hein. Vous avez des textes qui arrivent.
Ça n'arrête pas. Et c'est de moins en moins intelligent et lisible, donc ça nous donne de plus en plus de travail. Donc, toutes ces réformes ont fait que il y a de moins en moins de reclassements possibles. C'est-à-dire que on passe plus rapidement vers la post-sortie, par la post-licenciement, parce que l'employeur a une obligation de chercher à reclasser.
Mais c'est
il
très
est de
compliqué.
Moins en moins sanctionné.
Alors,
et du coup, la plupart des personnes qui sont sorties par une inaptitude ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus rien faire, d'ailleurs, qu'ils ne peuvent plus rien contester parce qu'ils ne peuvent pas contester l'absence de reclassement. C'est faux. Je crois que c'est ce message d'espoir que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se retrouve dans une situation de souffrance au travail, donc dépression réactionnelle à une souffrance au travail, on peut venir chercher la responsabilité de l'employeur, même si on n'est pas reclassé, en venant chercher son manquement à l'obligation de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est l'obligation de sécurité? De manière claire, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures pour empêcher une dégradation de l'état de santé. S'il ne peut pas prouver qu'il a pris toutes les mesures pour l'empêcher, il est responsable.
On peut le juger responsable de la situation.
Voilà, et il va être condamné à une indemnisation du préjudice et à des conséquences indemnitaires d'un licenciement infondé. Parce que la cause du licenciement repose sur un de ces manquements.
Ah, d'accord.
Donc, il faut que les personnes le sachent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, souvent, et vous en avez peut-être parlé avec le médecin du travail hier, mais ces personnes-là ont besoin d'être connues en tant que victimes pour pouvoir se reconstruire et rebondir derrière.
C'est ça,
très important pour eux.
Ils ont toujours un peu ce sentiment, je vais m'arrêter si je dis des bêtises, ce sentiment que c'est eux les coupables.
Tout à fait. Que c'est une faiblesse,
c'est
une faiblesse personnelle qui a conduit à ça. Ils n'ont pas été assez résistants. Non. Actuellement, là, ce qu'on voit, nous, ce qu'on voit le plus dans le cas de l'association, c'est que les situations, j'allais dire, de harcèlement moral, en gros, un pervers narcissique qui s'en prend à quelqu'un,
c'est
une minorité.
Voilà,
c'est peut-être 2% des cas, c'est rien.
Il y aura toujours le pervers. Il y a toujours ça.
Mais c'est rien. La plupart du temps, c'est l'organisation du travail telle qu'elle est conçue.
C'est la structure même.
La structure même, avec ce besoin de rentabilité permanent, où les personnes ne sont plus des personnes, mais des chiffres, des numéros, qui conduisent à une souffrance, à un burn-out, à une décompensation telle qu'ils ne peuvent plus retravailler dans l'environnement. Et ces personnes-là ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas responsables. C'est le système qui les a rendues malades.
On l'a vu avec quelques procès récents, je ne peux pas les citer puisque les jugements ne sont pas encore prononcés, mais il y a eu des procès récents emblématiques où le juge a dit que c'était la structure qui était responsable.
Tout à fait.
Ce n'est pas que le petit chef. C'est aussi le fait de demander par la structure des choses impossibles à tenir,
à réaliser.
Alors que ça soit de pas forcément chez des cadres supérieurs comme on pourrait l'imaginer, mais ça peut être aussi chez les employés.
Tout à fait.
On leur dit, on avait pris le cas des gens qui font le ménage, si on leur donne des objectifs impossibles à atteindre,
ils s'effondrent. C'est d'ailleurs souvent les personnes les plus consciencieuses dans le travail qui craquent. Qui craquent les premières parce qu'elles ont cette conscience de vouloir faire un travail correctement.
Éthique
au travail, on en revient au thème
d'hier. Éthique au travail. Et ben, on arrive doucement à cette fin des interviews. Alors d'abord, toujours merci de venir jusqu'à nos locaux. On est ravis de vous recevoir à chaque fois à cette association Souffrance au Travail. On continuera à vous recevoir tous les mois pendant... Jusqu'à ce que cette radio se ferme parce qu'on aura trop souffert au travail, peut-être. Mais bon, pour le moment, en tout cas, on a tout mensuellement, on vous reçoit. Et puis, c'est toujours très intéressant de vous avoir les uns et les autres de l'association. On commence à en connaître pas mal, vous avez vu.
Oui.
On commence à connaître pas mal. Et chacun dans son domaine, mais toujours avec cet esprit collectif. En fait, vous êtes comme une équipe qui fait du sport un peu.
Oui.
Il y a des défenseurs. Il y a des attaquants, il y a des milieux de terrain, puis il y a le gardien de but qui évite les catastrophes.
Et puis face à un tel degré de souffrance, on est plus fort tous ensemble.
Voilà.
On le supporte.
Merci beaucoup en tout cas et à bientôt.